C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Les peuples isolés, uncontacted peoples, en anglais un terme précis en histoire et géographie qui désigne les quelques populations qui vivent en autarcie, sans échange d'aucune sorte avec d'autres sociétés et en particulier sans contact aucun avec la civilisation mondiale moderne. On connaît bien sûr les sentinelles de l'île de North Sentinel en région Indo-Pacifique, les Nukaks en Colombie ou encore les Tagiri en Équateur. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y avait également, jusqu'à l'époque moderne, en France, une tribu autochtone et isolée de la civilisation. Ce n'est qu'en 1875 que le premier contact fut établi et que nous découvrîmes les trois habitants de Limoges. Pour en parler avec moi aujourd'hui, nos experts de l'histoire, l'histoire avec un grand I, Alexandre Aubelin, bonjour.
Bien, bonjour.
Julien Marel, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bastien Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors, première question pour ce nouvel épisode, Limoges, la région du Limousin, pourquoi a-t-il fallu attendre 1875 pour établir le contact ?
Oui, donc le trio de Limoges, comme on l'appelle aujourd'hui, est un cap très particulier de l'histoire de France et aussi de l'histoire moderne, donc découvert en 1875. Comment ça se fait qu'il n'ait pas été découvert avant ? C'est la question qui a habité longtemps les lèvres de tous les historiens. C'est très simple. Alors, en fait, on a fait des routes à partir du XVIIe siècle et Limoges a été construite en fait sur un rond-point. Enfin, en tout cas, ce qui deviendra Limoges était en fait au milieu d'un rond-point. Et donc, ce trio de Limoges qui vivait en totale autonomie était au milieu d'un rond-point et ne s'aventurait où il y avait quelques arbres et ne s'aventurait jamais en dehors de ces bois et donc était resté sur ce rond-point pendant tant d'années. Et puis, bah, personne ne va jamais au milieu des ronds-points évidemment. Donc on les a découverts très tardivement.
À noter que c'était quand même le plus grand rond-point de France en 1875, qui se trouvait du coup dans le Limousin. Ça s'appelait pas Limoges.
Hein, non, bien sûr.
Ça s'appelait, enfin les autochtones en tout cas, l'appelaient Limouze à l'époque quand on les a découverts. Ils habitaient à Limouze selon eux. Et donc ouais, sur ce, on pense que ça faisait ce rond-point, il faisait à peu près un bon T4 quoi. Au niveau de la superficie, au niveau de Loi Carrez, je pense que ça aurait été du 120 mètres carrés à peu près.
Ouais, bah, ça dépend avec les arbres,
à
ça
plat,
dépend.
Il n'y a pas d'étage, évidemment.
Non, mais voilà, le rond-point faisait à peu près 150 mètres de diamètre.
Ouais, il y avait un peu de place quand même.
Il y avait un peu de place. Et qui étaient ces fameuses trois personnes ?
Alors, ils étaient trois, effectivement. Il y avait Valérie, et il n'avait pas de nom de famille. Valérie, Thierry et Simonin.
Valérie, Thierry, Simonin.
Et donc ces trois autochtones de ce qu'on appelle aujourd'hui Limoges donc vivaient ensemble, c'était de bons amis qui s'étaient retrouvés là et qui avaient décidé d'habiter. Ils pratiquaient la porcelaine, en fait, tout simplement. C'était leur principale occupation toute la journée, en plus de la chasse et de la cueillette, c'était la porcelaine.
Ce qui était fou, donc, c'était surtout ce caractère, c'est pour ça qu'on parle de peuple autochtone et de qui vivaient en autarcie, c'est qu'ils ne quittaient jamais du coup leur rond-point. Ils vivaient complètement cloîtrés entre eux sur ce rond-point, pour la simple et bonne raison que tous les trois étaient des déserteurs de guerre. Ils avaient été enrôlés pour aller faire la bataille de Waterloo, et ils ne savaient pas nager, et donc ils ne voulaient pas y participer. Et ils se sont réfugiés dans un endroit plutôt vierge de la France, donc dans le Limousin, où ils ont pris donc ce rond-point comme lieu d'habitation.
Enfin, leurs descendants étaient des déserteurs de guerre, mais là on est quand même une...
Pardon, je me mélange un peu, effectivement.
7 ou 8 générations en dessous, et donc ces personnes-là, eux, enfin ces trois personnes, Thierry, Simonin et Valérie, n'avaient eux jamais eu de contact avec la civilisation extérieure.
Ce qui est assez fou, c'est qu'au moment où on les découvre... Sachant que je parle de déserteurs, je parle d'un groupe d'une cinquantaine de personnes, tout de même, qui vient se réfugier sur ce rond-point et qui fonde Limouze. Génération après génération, ils ne sont plus que trois. On pense qu'ils ont commencé vers 1799 à se réfugier sur le rond-point, et en 1875, on découvre uniquement trois personnes.
Donc, uniquement trois personnes, que sont devenus les autres ?
Alors, les autres, il y a beaucoup de légendes en fait qui entourent ce rond-point et la ville de Limoges. car il y a peu d'informations en fait, qui en sont sorties. On a quand même une personne qui a réussi à quitter un peu avant la découverte le rond-point, qui a déserté en fait, le rond-point car il était gravement malade. Du coup, on a su qu'est-ce qui était arrivé des autres. C'est qu'ils sont, ils sont aussi tombés malades. Il y a au bout du dixième mort, et là ils se sont dit bon, là il faut vraiment qu'on trouve un remède autre part qu'à Limouze. Et donc, ils ont emmené ce malade se faire guérir à la ville d'à côté, pas loin de Poitiers, maintenant. Malheureusement, il est aussi décédé car ils n'ont jamais réussi à trouver la cause du problème. Mais du coup, oui, il y a une grave maladie qui a touché la ville de Limouze. Vers 1870 à peu près, les dates ne sont pas exactes, un peu avant la découverte. Et du coup, ils se sont tombés au nombre de trois, malheureusement. On a vraiment réussi à les découvrir juste avant la fin. Quoi.
Et alors, ça pose de graves problèmes, parce qu'en 1875, on découvre ce trio. Mais la maladie qu'ils croyaient éradiquée était en fait toujours dans leur système. C'est juste que leur système immunitaire s'était renforcé. Et lorsqu'on contacte ces personnes qui sont ramenées au contact de la civilisation, une épidémie se développe, la fièvre, ce qu'on appelait la fièvre de la porcelaine, qui se propage en France. Donc une véritable épidémie découle de cette rencontre avec ce trio.
Ok, donc vraiment là, on a un premier contact qui fait beaucoup de dégâts en créant cette épidémie. Quel était l'état d'esprit là, de ces trois personnes en fait, c'était les derniers de leur peuple. Quels ont été leurs derniers jours, leurs dernières pensées ?
Faut bien imaginer. Au moment où on les découvre, la personne qui les découvre d'ailleurs, c'est Henri Félon, qui est un automobiliste qui en fait sa roue a buté contre le dévers, le trottoir du rond-point, dans l'intérieur du rond-point, et a explosé. Et donc Henri Félon attend le dépanneur et il décide de se poser à l'ombre des arbres du rond-point. Et il finit par se rendre compte de l'espace qu'il y a ici et il décide d'aller faire une petite sieste. Et donc faut imaginer ce rond-point, il est vraiment entouré d'arbres, mais d'une dense végétation. On pensait même que c'était des haies à l'époque, qu'il n'y avait rien au milieu. En fait, c'est pour ça que ça, on a mis tant de temps à découvrir le trio de Limouze. Au moment où il s'enfonce dans cette végétation, il se rend compte qu'il y a une grande clairière avec des cabanes à l'intérieur. Et il rentre dans la première cabane qu'il voit, qui est habitée donc, par le trio de Limouze.
Alors justement, on a cet événement qui a été repris dans plusieurs œuvres culturelles, dont par exemple des films, dont je vous propose d'en écouter un extrait à l'instant.
Oh, j'ai tellement chaud. Heureusement que le dépanneur arrive bientôt. Ces arbres sont si grands et ombragés. Je vais aller faire un tour. Monsieur, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites au milieu de ce rond-point ?
J'étais en train de faire une tasse en porcelaine.
Ça va, monsieur ? Monsieur, vous toussez.
M'approchez pas.
Thierry, c'est qui, lui ?
Je ne sais pas. Qui êtes-vous ?
Je suis monsieur Félon, Henri Félon. J'ai crevé, ma voiture a crevé.
Comment ça, y a personne ? Thierry, je comprends pas. Comment il a pu arriver jusqu'ici ?
Une voiture ? Qu'est-ce que vous racontez ?
Qu'est-ce que c'est qu'une voiture ?
Qu'est-ce que vous avez dans la main ? Cette petite tasse ?
C'est de la porcelaine.
Nous l'avons faite ce matin.
Hey, rendez-la-moi.
Oh ! Waouh ! Vous êtes venu nous voler, c'est ça ?
Non, pas du tout. Venez avec moi, il faut que je vous présente quelqu'un.
Ça me semble être un piège.
Non, pas du tout. Tenez, j'ai un sandwich, si vous voulez. Preuve de ma bonne foi.
Merci. C'est bon, c'est délicieux.
Venez, il faut que je vous présente quelqu'un.
Nous vous suivons.
Ok.
Donc là, on a un exemple de cet événement qui est retracé, où on comprend que Henri Félon essaye de tirer à parti cet événement, donc sa voiture qui tombe en panne, pour récupérer les trois personnes et les emmener avec lui.
Effectivement, Henri Félon était automobiliste, mais il était également le neveu de Vincent Félon, qui possédait une usine de vaisselle. À l'époque, on ne connaissait pas la porcelaine. Et donc, Henri Fellon se dit peut-être que c'est une bonne idée de présenter ces faiseurs de miracles. Hein. Pour lui, c'est un miracle, la porcelaine. Hein. C'est un bel objet à son oncle. Et c'est ça qui a amené...
La ville de Limoges.
La ville de Limoges et la fièvre de la porcelaine, malheureusement.
Henri Fellon présente donc les trois autochtones, donc Valérie, Thierry et Simonin, à son oncle. Son oncle voit tout de suite le potentiel économique de la porcelaine et décide de venir, donc d'une, de soigner le trio de Limouze qui va mal, hein, qui, on les voit dans cet extrait de film, que, très beau film d'ailleurs, qui s'appelle juste les exilés de Waterloo. Il décide donc de soigner le trio de Limoges, d'y installer un petit hôpital de campagne. On fait détruire le rond-point, on prend de la place et on commence à construire de l'industrie de porcelaine, quelques maisons du coup pour les quelques travailleurs qui vont commencer là, et on met le trio de Limoges en tant que chargé de projet dans ces entreprises industrielles.
Ok, donc là on a quand même un retournement de situation qui n'est pas cocasse, c'est assez rare dans l'histoire, on a un peuple autochtone isolé de tout, qui devient, j'allais dire du jour au lendemain, bien sûr c'est plus compliqué, mais qui devient quand même chargé de projet dans l'industrie de la porcelaine à une ville qui vient d'être nommée Limoges. Quel impact ça fait sur ces trois personnes, là, sur nos trois protagonistes?
Ça n'a pas été facile pour eux, hein, le choc de la civilisation et tout l'ampleur en fait, qu'a appris tout ce projet. Ils ont quand même été chargés de projet, donc beaucoup de responsabilités. Heureusement, la famille Fellon a été vraiment gentille avec eux, a vraiment compris l'impact que ça pouvait avoir dans leur vie de prendre autant de responsabilités. Et donc, ils ont fait installer un autre rond-point. Ils ont créé un rond-point pour eux, beaucoup plus grand. On parle d'un rond-point de 500 mètres carrés, entouré d'une petite forêt.
Il existe toujours, hein, dans le centre-ville de Limoges.
Bien sûr, hein. Et qui est actuellement le rond-point le plus grand de France. Il y a carrément une rocade en fait autour pour passer, pour que le trio puisse être à l'abri des bruits de voitures et à l'abri aussi un peu de la civilisation qui soit pas trop polluée. Donc ils habitent encore sur ce rond-point qui est beaucoup plus construit.
Leur descendance.
Leur descendance, bien sûr.
Le trio originel, bien sûr.
Oui, bien sûr, c'est plus le trio originel, mais ils ont été mis là au départ. Et du coup, ils ont pu vraiment bâtir une ville à l'intérieur de Limoges, qu'on appelle maintenant le Limoujon. C'est le Limoujon, le rond-point du Limoujon. C'est le plus grand.
Ça veut dire la petite Limoges.
La petite Limoges. Alors justement, est-ce que les descendants de ce peuple autochtone, réduit à trois personnes, est-ce qu'ils ont quand même malgré tout gardé une culture, des traditions qui peuvent nous paraître, à nous, au reste du peuple français, surprenantes?
Alors c'est aujourd'hui, donc c'est une famille très fortunée, hein. La famille de descendants, hein, ils possèdent la plupart des bâtiments de la ville de Limoges, il y a une très très belle demeure sur leur rond-point. Je dirais qu'il n'y a pas grand chose qui a subsisté, si ce n'est cet amour pour les sandwichs. Hein. On entend dans le film d'ailleurs que Henri Fellon leur offre un sandwich pour les amadouer, ils n'avaient jamais eu de sandwich de leur vie, donc c'est un petit peu voilà, cette gastronomie qui se transmet dans la famille et de l'amour pour le sandwich. À part ça,
c'est eux qui possèdent au niveau agroalimentaire l'entreprise Donna, qui fait les sandwichs sur l'autoroute. C'est pas anodin aussi.
C'est rapport à leur histoire, ça, bien sûr.
Effectivement, donc finalement, une intégration qui s'est assez bien passée avec le peuple français. Pour une fois, pas de guerre, à part un petit problème, on va dire, sanitaire. Comment ont vécu les Français, justement, l'arrivée donc, de ces trois autochtones et l'industrie de la porcelaine qui se développe à ce moment-là?
Ça fait beaucoup de vagues à l'époque, hein. Tous les journaux en parlaient, hein. C'était quand même la découverte d'un peuple comme ça, qui vivait de rien, qui était coupé du monde actuel, qui était un peu même en retard. Et en fait, les Français ont été pris vraiment d'émotion par ce trio.
Tout le monde voulait les voir.
Tout le monde voulait les voir, ça a fait sensation, hein. Les gens se sont déplacés vers
Limoges.
Vers Limoges, et du coup, la ville a commencé à avoir une belle renommée. Le trio a fait beaucoup de conférences, les Français voulaient les entendre parler, car ils n'avaient pas le même français qu'eux. Du coup, ils ont fait beaucoup de conférences où ils se faisaient interviewer par les Français. Les Français leur ont fait découvrir toutes les cultures et toute la gastronomie aussi. Les gens venaient de partout de la France avec leurs plats. Leur plat de région.
Et eux aussi, ils partageaient leurs spécialités.
Et ils partagent aussi leurs spécialités.
Notamment le comment s'appelait ça, la soupe.
La soupe de champignons.
La soupe de champignons, voilà, qui est une spécialité qui la seule, parce qu'ils mangeaient exclusivement ça avant qu'on découvre le rond-point de Limouze, est une spécialité qui vient de Limouze. Ouais.
Ok, donc une intégration qui se passe bien. Vous êtes toujours à écouter l'histoire avec un grand et on se retrouve juste après la pause musicale.
Ici le sport national s'est trouvé un coin au sec, ici quand type le décor de la potence tombe avec, tous les papis c'est douteux, on fait de la résistance, y'a deux gugus qui arrivent pour 60 en partant, c'est le même maire, depuis l'ère protozoïque, y'a 5 musiciens pour 24 groupes de zik, à Limoges le jambon star c'est la vedette locale, et les roustons de Saint-Martial conservés dans un bocal, quand tu dis que t'es né ici, on te cause porcelaine, donc au bout de la énième, normal que tu chopes la haine, ici tout le monde connaît tout le monde, et quand tu tires une crampe, le lendemain tu fais la une du copule. L'air du centre. La soif les rupins se mélangent pas aux ivrognes alors qu'ils mangent le même madrange et côtoient le même uranium. Les jeunes se demandent où finir à leur beuverie, mais y'a pas trop le choix, y'a que deux boîtes pourries. Dans les soirées jet set, y'a les deux bonasses du coin, trois patrons de bar torchés, les cinq musiciens. Y'a pas de pyramide, pas de Big Ben, pas de géode, y'a que la gare en forme, le gastéropode. Ici tu finis pas, tu commences alcoolique et quand tu montes à Paris, tu trouves ça très exotique. Les indigènes sont pas bouseux, sont pas vraiment bourgeois, sont pas vraiment joyeux et pas tristes à la fois, mais il y a une telle promiscuité qu'en cas d'épidémie de gastro, la mer y colle les antibiotiques direct dans le château d'eau. Il y a un cimetière plus grand, la surface habitable et une fête des petits ventres interdite aux arabes.
Alors grand, je suis désolé, mais alors là c'est un petit peu facile hein, ce que tu racontes, et c'est totalement faux. Regarde, cette année, la fête des petits ventres tombe pile poil avec l'Aïd El Kebab et Abdallah, hein, s'est trouvé un sandwich aux couilles de mouton. Eh ben oui, et voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis à ça? Bon. Bah oui, mais bon.
Quand tu cherches un avocat, t'étais en cours avec lui. Quand tu cherches un toubib, tu faisais du basket avec lui. Quand tu cherches un dealer, t'étais en garde avec lui. Et quand tu cherches une meuf, tu peux te retrouver avec lui. C'est une ville de gauche, mais faut s'en rappeler. Y'a plus de poulets que dans le congèle d'un KFC. Les flics se font plus chier qu'une boulimique se fait gerber. Mat la raideur dans l'uniforme quand ils te retirent ton permis B. Limogé dès la naissance, j'ai un quart matricard. Et en plus j'ai hérité de ce putain de timbre à phare. Heureusement qu'il y a ma sœur, le bistrot laissera pour mettre un peu de couleur dans ce putain un panier de crabe, 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 crabe.
Voilà dans l'histoire avec un grand I, c'était le morceau Limoche du groupe La Tumeur. On parlait juste avant de nous quitter de cette intégration qui s'est très bien passée avec des trois protagonistes avec le reste du peuple français. Ils partaient faire des conférences à travers la France et néanmoins pendant ce temps-là, il y avait l'épidémie.
Oui, c'est là où... Allez, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on réitérerait une telle erreur, mais effectivement, on a parlé un peu plus tôt de la fièvre de la porcelaine. On pensait, enfin en tout cas l'entreprise Vincent Fellon pensait les avoir soignés, mais finalement pas tant que ça. On se rend compte au fur et à mesure de la tournée que les Limougeons, ils s'appellent comme ça, après Valérie, Thierry et Simona Limougeon, ils ont eu leur nom de famille, sont commencés à retousser. Et c'est là que commence l'épidémie de fièvre de la porcelaine en France, qui commence par cette tournée nationale des Limougeons.
Et donc un événement déclencheur de cet épisode sanitaire. Comment la France va gérer cet événement? Quel a été l'impact? Qui est contaminé? Et voilà, comment ça se termine?
Du coup, il y a beaucoup de Français. Hein. On parle de, d'1% de la population française quand même qui est touchée par cette épidémie à l'époque. Du coup, vu que tout le monde voulait aller voir, ça a vraiment touché beaucoup de Français.
On en est resté à 1%, mais s'il n'y avait pas eu de mesures,
ça aurait décollé. Heureusement, le gouvernement à l'époque a mis en place des études rapides sur le sujet. On est allé à la source, on est retourné au rond-point. Il avait été détruit entre-temps, mais on a quand même réussi à creuser pour essayer de trouver d'où avait pu venir la maladie. Et on a trouvé. Du coup, ça venait en fait du matériau de la porcelaine qui était utilisé par le peuple. Et du coup, ce matériau était avarié.
Matériau était avarié, ce qui a entraîné le début de la maladie.
Exactement. Oui, c'était une espèce de champignon qui était endémique au rond-point de Limouze. Qui servait à enduire la composition de porcelaine pour lui donner un aspect brillant. Voilà, on enduisait d'un champignon qui en fait se révélait être toxique, avec une toxicité un peu moindre qui ne tuait pas l'hôte, mais qui le rendait gravement malade et de manière très contagieuse.
Alors, après, on a par la suite changé, on a utilisé un autre matériau pour donner cette brillance à la porcelaine. Donc on n'utilisait plus le champignon. Mais oui, les conséquences ont été graves à l'époque. Hein. Il y a eu des milliers de morts. C'est une fièvre forte hein, qui peut provoquer des symptômes légers de mal de tête jusqu'à des symptômes beaucoup plus graves de gens qui crachaient du sang. Donc le gouvernement français retrace la source, donc on change immédiatement les matériaux et prend d'autres mesures, des mesures de quarantaine. Et donc là, tous les ronds-points de France ont servi à cette époque à mettre en quarantaine les gens qui étaient atteints de cette maladie. Et donc, on leur fabriquait des cahutes sur les ronds-points et on utilisait cet espace non utilisé pour les...
Est-ce qu'on sait estimer à peu près le nombre de ronds-points, le nombre de personnes mises en quarantaine en France?
Il y a quelques estimations qui ont été faites. C'était à peu près une quinzaine de personnes par rond-point. Sur un total de... alors, en France, je ne saurais pas, mais par ville, c'était des centaines de ronds-points par ville. C'était assez dément. Hein.
Et on a dû, à l'époque, la France comptait pas moins de 100 000 ronds-points. On a dû en détruire après la quarantaine, parce qu'ils étaient sûrement contaminés. On en a beaucoup moins aujourd'hui. Mais du coup, ça faisait quelque chose comme 1 500 000 personnes, on peut le dire, je pense. 1 500 000 personnes...
Et ça, c'est juste en France.
Juste en France.
Bien sûr. Ah oui, parce que l'épidémie a du coup... comme toute épidémie,
la maladie ne s'arrête pas aux frontières. Et le Luxembourg, qui était à l'époque un pays bien plus grand et bien plus riche qu'aujourd'hui, a vu sa population divisée par 10 et est aujourd'hui le petit pays enclavé entre la France et l'Allemagne qu'on connaît aujourd'hui. Mais avant ça, c'était un pays bien plus rayonnant et bien plus important.
À l'époque, il y avait une bonne centaine de villes dans le pays du Luxembourg. Et après l'épidémie, il ne restait quasiment plus personne. Ils ont décidé de tout mettre dans une seule ville et d'appeler ça le Luxembourg.
C'était plus simple pour gérer le peu de personnes qui restaient. Intéressant. Donc, on a parlé des traditions qui restent donc très peu, à part ce fameux sandwich. Aujourd'hui, où se situe Limoges dans le classement des villes les plus belles de France?
Cette année, en 2022, Limoges a obtenu une 57e place. Qui est modeste, voilà, c'est entre Besançon et Clermont-Ferrand, c'est plutôt une bonne place.
Mais c'est vrai que c'est une descente en enfer quand on sait qu'en 1882, elle obtient le prix de la ville la plus belle de France, après toutes les installations, les infrastructures mises en place par la famille Fellon et par les Limougeons. Effectivement, aujourd'hui, Limoges a un peu perdu de sa splendeur. Première ville touristique aussi en 1890, du monde. Après la fièvre de la porcelaine, une fois que l'épidémie a été éradiquée, tout le monde voulait voir les Limoujons. Aujourd'hui, Limoges, ça reste quand même une ville très touristique, mais ça a perdu un petit peu de sa splendeur.
Ça a perdu un peu de sa splendeur. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur les intérêts de cette ville, s'il y en a ?
Alors, moi, je vous invite à, quand même à aller visiter les anciennes usines de porcelaine. Donc, il y a encore de la porcelaine fabriquée à Limoges, mais les usines de l'époque, en tout cas, peuvent être visitées. Il y a des musées qui y sont accolés, donc c'est vraiment une part de la ville de Limoges qui est là. Et il y a un musée d'art, de sculpture et de peinture sur porcelaine. Qui vaut ce qu'il vaut, mais que oui. Que sympa. Donc voilà, si vous passez dans le coin, c'est un peu les deux choses que je vous recommanderais. Il y a un très bon restaurant sur la place de l'église qui sert une soupe aux champignons qui est remarquable.
Justement parlé, j'étais la semaine dernière, j'ai encore regoûté une énième fois la soupe aux champignons. Je la recommande vivement. C'est vraiment la meilleure soupe aux champignons que j'ai jamais mangée.
Non, celle-là est quand même très bonne. Oui.
Donc la soupe aux champignons, vraiment le conseil de l'histoire avec un grand I pour vous, auditeurs et auditrices. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Est-ce qu'on peut rapidement, en deux mots, donner des pistes de lecture, des œuvres d'art à regarder pour retracer cet événement qui est le premier contact avec Limoges ?
Alors moi, en tête, j'ai un poème. C'est un poème qui a été écrit par Thierry, du trio. En fait, de ce peuple qu'on a découvert.
Bonjour.
Oui. Et Thierry était un écrivain, en fait. Il écrivait beaucoup et il a écrit un poème qui s'appelait le Grand Sapin. Et du coup, on peut le retrouver encore sur Internet. Et je vous invite
à aller. Vous pouvez nous en lire un vers, Bastien ?
Alors, j'ai un vers, justement, je l'ai avec moi. Juste deux phrases. Il s'élançait vers la cime, un petit écureuil le parcourait, j'étais en bas, à la cueillette, mes oreilles sifflaient.
C'est beau.
C'est très beau. C'est très beau et je vous invite à lire la suite, c'est vraiment fascinant.
Moi j'ai une deuxième recommandation, si je peux me permettre, s'il reste 7 ans. Il y a le set Lego. Le set Lego qui permet de reconstituer à petite échelle, hein, évidemment, le rond-point de Limoges. C'est un set assez complet. On a les trois personnages. Il y a aussi Monsieur Félon.
Un très beau cadeau pour les enfants curieux. À mettre sous le sapin, façon jeu de mots.
Et vous, Julien Marais, une recommandation peut-être ?
Non.
Non, pas de recommandation pour Julien Marel. Ce sera le mot de la fin, un peu triste. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré au premier contact avec Limoges. Vous retrouvez l'émission en podcast sur print.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine pour étudier un nouveau fait historique.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.